Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité. À la technique et à la réalisation, mon complice Grégor et votre serviteur André Satenza. En direct du studio Gisèle Halimi, je reçois aujourd'hui le chargé de mission, ou peut-être le responsable de mission sans action, les métiers engagés pour l'humain. Mais avant de démarrer notre conversation avec notre invité, M. Thomas Personnini, la rentrée sociale a été chaude dans le secteur social et médico-social. D'abord, la première, les vieux méritent mieux. Un mouvement qui a été soutenu dans l'ensemble des territoires, avec des manifestations dans tous les EHPAD, la Fédération nationale des associations des directeurs des établissements et services pour personnes âgées alerte fortement 18 organisations autour de cette fédération pour nous dire que nos anciens, on ne les respecte pas. Il y a une dégradation, bien évidemment, de la situation des EHPAD, dégradation budgétaire. Les chiffres énormes, 71% des établissements et services clôturent l'année avec des déficits autour de 150, 200, 300, 1000 euros de déficit, en hausse, bien entendu, par rapport en 2023, des établissements qui ont des difficultés de trésorerie, des établissements où il manque du personnel, des établissements où il faut en effet prendre soin de nos aînés. Cette association, ces fédérations, ces 18 associations et fédérations souhaitent qu'il y ait une réforme structurelle. Ils alertent la puissance publique. Il faut une loi de programmation. Il faut instaurer un taux d'encadrement minimum pour s'occuper sérieusement et avec bienveillance de nos aînés. Il faut bien entendu des services de tarification à la hauteur du prix, ou pourrait-on dire de revient, pour une prestation de qualité. Bien, on voit bien que dans les établissements des EHPAD, des services à domicile, ça va très mal. J'alerte, mais tous nos auditeurs qui suivent depuis de nombreuses années Sentinelle d'Humanité savent qu'il y a un délitement de ce secteur. La puissance publique, l'argent de nos impôts doit être bien utilisé. J'alerte personnellement parce qu'aujourd'hui, notre pays s'est collecté, pourrait-on dire, correctement l'impôt, parce qu'il y a un consentement à l'impôt. Mais le jour où il n'y aura pas de consentement à l'impôt et que les Français comprennent que cet argent ne va pas au bon endroit pour s'occuper des plus vulnérables, des plus faibles, des plus âgés, des plus vieux, les vieux méritent mieux. Mais après les vieux, une autre manifestation, le 25 septembre, une mobilisation nationale pour la protection de l'enfance. Là, encore une fois, un secteur qui va très très mal, la protection de l'enfance. Encore une fois, une mobilisation. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Que les enfants soient accueillis dans des bonnes conditions. Nous remarquons qu'il y a des enfants à la rue. Nous remarquons qu'il y a des enfants dans les hôtels avec aucun suivi administratif ni éducatif. Cela appelle, bien entendu, à des dérives terribles. Certains nombres de rapports ont mentionné clairement qu'il y avait de la prostitution. Les travailleurs sociaux qui s'occupent de la protection de l'enfance sont aujourd'hui déclassés. Comme d'habitude, on a l'impression qu'on n'anticipe pas, alors qu'on savait que le secteur de la protection de l'enfance allait très mal. Pénurie du personnel, l'attractivité, des éducateurs spécialisés qui manquent à l'appel, des moniteurs éducateurs. Toutes ces associations ont manifesté fortement et encore une fois alerté le gouvernement. On a bien vu qu'avec le nouveau gouvernement qui a été nommé, on avait quand même oublié, faut-il le rappeler, un ministre délégué pour les personnes handicapées. L'illusion des Jeux olympiques s'est atténuée. L'illusion des Jeux olympiques est dissipée. Et pourtant, des personnes en situation de handicap, les handicapés, pourrait-on dire, les personnes vulnérables, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes, ils sont toujours là. On voudrait les rendre invisibles. Nous, on est là pour les rendre visibles. La protection de l'enfance, toutes les associations se sont mobilisées dans toutes les régions. Manifestations à suivre. C'est 400 000, comme on dit, le collectif de 400 000 enfants qui sont pas traités correctement dans notre pays. Cela veut dire que la signature de notre pays, de notre République, est bafouée. Parce que nous signons des conventions qu'ensuite nous ne respectons pas. Cela ne peut pas durer. Il faut donc continuer à se mobiliser. Nos enfants méritent mieux. Nos vieux méritent encore mieux. Monsieur Personnini Thomas, vous arrivez dans un secteur qui est difficile. Et vous le savez parce que vous avez la charge. Un projet, en tout cas enthousiasmant, Monsieur Personnini, un projet qui est mené par la fédération FEAP-NXM, mais vous direz ce qu'il y a derrière FEAP-NXM, projet qui est soutenu par l'agence régionale de santé de la région Occitanie. Alors, quelle est la genèse de ce projet qui porte bien son nom, Sens Action, donner du sens à l'action pour les métiers engagés de l'humain? Monsieur Personnini, soyez bienvenu.
Ben, merci beaucoup, Monsieur Atenza, pour cette invitation à Sentinelle d'Humanité. Effectivement, donc, aujourd'hui, donc, je suis chargé de mission afin de développer l'attractivité des métiers. Alors, vous avez parlé effectivement de quelques métiers, mais sachez qu'il existe plus de 70 métiers de l'humain. Parfois, on pense à beaucoup de métiers proches de l'accompagnement, mais ce sont aussi toutes ces personnes qui travaillent autour de l'humain qu'il ne faut pas oublier, hein, pas forcément tout le temps au quotidien, mais aussi assez proche. Effectivement, donc moi-même, je suis un ancien éducateur spécialisé, donc du coup, je suis arrivé sur ce projet, en fait, qui émane, comme vous l'avez dit, de l'Agence régionale de santé Occitanie.
C'est l'Agence régionale de santé qui finance en partie, ou en totalité, pourrait-on dire aujourd'hui.
Qui finance en totalité cette action. À travers un crédit non reconductible. Et copiloté par deux fédérations employeurs, effectivement, qui sont Nexem et FEAP.
Alors, Nexem, c'est la fédération de la 66. Il y a une convention, c'est ça ? Donc, ce sont les associations gestionnaires qui dépendent de la convention 66. Et la FEAP, si vous pouvez nous dire ce qu'il y a derrière la FEAP.
Et la FEAP, c'est également comment, la fédération employeur sous la convention 51, puisqu'il y a deux conventions dans notre secteur. Et donc, on retrouve effectivement d'autres organismes gestionnaires, notamment du côté davantage des personnes âgées, effectivement, FEAP, qui est aussi des établissements handicap. Et donc, ce projet a été créé dans le sens où l'ARS travaille sur des sujets d'attractivité à travers aussi la qualité de vie au travail. Et il y avait cette idée, en fait, de rendre nos métiers, de redorer un peu le blason de nos métiers, puisque ce sont des métiers parfois méconnus, parfois un peu entachés aussi, parce qu'on en a parlé, vous l'avez dit, hein, dans la protection de l'enfance ou même chez nos vieux, comment les accompagner. Donc du coup, il y a eu cette idée de créer un projet de promotion des métiers, notamment auprès des jeunes, puisque les jeunes, ce sont les futures personnes qui vont travailler auprès des personnes âgées, auprès des personnes vulnérables. Et donc le projet émanait de ça. Et donc l'idée, c'était de créer un premier poste de chargé de mission avec plusieurs objectifs. À travers l'attractivité des métiers, parce que l'attractivité des métiers, c'est très très large. On a plusieurs objectifs, effectivement, c'est bien la promotion des métiers. Donc, comme je vous l'ai dit au sens large, du soin et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap.
Alors, vous avez dit, monsieur Personnier, 70 métiers. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns, là ? Parce que tout le monde connaît éducateur spécialisé, moniteur éducateur. On peut connaître les personnes qui sont des soignants. Mais... Alors, allez-y, donnez-nous quelques métiers.
On va avoir effectivement infirmier, aide-soignant, mais aussi assistant de service social.
Assistant de service social.
Voilà, mandataire judiciaire.
Ce sont en particulier pour les tutelles, curatelles, renforcées ou autres, d'accord ?
Bien sûr, pour accompagner les personnes. Il y a aussi tous les métiers comme orthophoniste, psychomotricien ou psychomotricienne, psychologue, et puis aussi les métiers du médical. Hein. On parle aussi de médecin, psychiatre. Il peut y avoir aussi des métiers comme... moniteur d'atelier pour travailler avec les personnes en situation de handicap en établissement et services d'aide par le travail. Voilà, ce sont tous des
ou dans des entreprises adaptées.
Absolument. Voilà. Donc ce sont vraiment divers métiers auxquels on ne pense pas forcément. On a souvent un peu ce cliché hein, de l'infirmier ou l'infirmière. On ne sait pas forcément où il travaille et ce qu'il fait. Et puis de l'éducateur spécialisé, alors qu'il peut découler plein d'autres métiers.
Et donc l'ARS fait un constat. J'imagine que les associations et les fédérations également. Il y a un problème de pénurie du personnel, c'est ça ? D'attractivité ? Les gens ne viennent pas chez nous, naturellement ?
Absolument. Et puis,
il y a des départs à la retraite massif. c'est ça, le diagnostic.
Et puis, il y a aussi un gros turnover. Et voilà, les personnes quittent un peu les métiers. Et surtout, il n'y a plus personne à recruter. Le constat est là. Et donc, il y a, comme vous l'avez dit en préambule, il n'y a plus personne pour accompagner nos personnes vulnérables. Je dis nos personnes, elles ne nous appartiennent pas, mais voilà, les personnes qu'on accompagne en tout cas. Donc, le constat démarre de là.
D'accord.
Et donc, l'idée vraiment, c'est de... Il y a aussi cet aspect de sensibilisation au handicap et aux personnes vulnérables, quand on parle de handicap, par exemple, on ne sait pas forcément le définir. Voilà. Et donc, du coup, il y a aussi cette volonté de dire il existe des handicaps visibles, invisibles, moteurs. Il existe aussi la psychiatrie. Vous avez parlé d'aide sociale à l'enfance, de protection de l'enfance. Mais qu'est-ce que c'est ça, finalement ? Et donc, du coup, l'idée, c'est aussi de faire connaître tous ces secteurs qui sont riches et où on a un accompagnement qui est très intéressant, hein, puisque les projets qu'on mène avec le public, nous l'oublions pas, sont quand même encadrés, et ce sont des projets très intéressants, et donc du coup, il est important aussi de les mettre en lumière et de faire parler ce public vulnérable pour donner envie aussi à des personnes qui ne connaissent pas notre secteur de venir y travailler.
Alors, la pénurie du personnel, il y a un chiffre qui circule. J'imagine qu'il doit être documenté, que derrière les fédérations, FEAP, NXM, sont précis. C'est 50 000, 60 000 personnes qui manqueraient à l'appel pour faire tourner l'économie générale du secteur social et médico-social. C'est à peu près ce chiffre ou pas ?
C'est à peu près ce chiffre-là, sachant qu'en plus, nous avons des personnes qui vieillissent de plus en plus tard et qui ont besoin d'accompagnement de plus en plus. Donc oui, nous avons besoin absolument de nombreux soignants et personnels éducatifs et d'accompagnement urgemment, effectivement.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des futurs professionnels, alors que ce sont des beaux métiers, votre slogan, sans action, métier engagé pour l'humain, pourquoi ils ne viennent pas chez nous, dans nos associations, dans nos services, dans nos établissements? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes professionnels ou futurs professionnels?
Alors, la première réponse, effectivement, c'est la visibilité. La visibilité, parce que de plus en plus, nous communiquons avec le digital, et quand on recherche une offre d'emploi ou un secteur, eh bien, on va utiliser beaucoup le digital, et donc notre secteur est très, très en retard sur ce point-là.
Dans le numérique, on est en retard.
On est très en retard sur le numérique. Et donc,
jeunes, quand ils cherchent un job, c'est plutôt, on va sur les sites internet.
Absolument.
On regarde, voilà. Donc
absolument.
Là, j'imagine qu'entre-temps, les associations se sont améliorées depuis 2 ou 3 ans.
Elle s'améliore, elle tente. Oui, bien sûr, on est en train de prendre ce chemin-là, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer et aussi à savoir comment on fait, nous, de l'aller vers, enfin, je parle des associations, hein, de l'aller vers ce public. D'accord. Qui cherche à travailler et à se former dans nos métiers. Et donc, on remarque souvent que des professionnels nouveaux diplômés ou en formation vont connaître une structure, par exemple, du social, du médico-social, mais ne vont pas connaître l'organisme gestionnaire et non plus vont moins s'intéresser aussi à la culture de ce qui s'y passe. Et c'est en ça aussi que nous, on intervient pour montrer que toutes les organisationnaires ont une histoire, et souvent, c'est une histoire de parents, de personnes qui ont accompagné leurs enfants qui étaient en situation de handicap. Donc, il y a tout cet engagement-là à rajouter aussi. Et voilà, donc c'est en ça la visibilité qui est importante à maintenant mettre en valeur. En tout cas.
Est-ce que cette année ou l'année passée, les écoles qui forment les futurs professionnels du secteur ont rempli, comme on dit dans le langage professionnel, ont rempli les cohortes de futurs professionnels? Ça, vous avez des informations sur les écoles de la région?
Alors oui, je vais parler pour les écoles d'Occitanie. Effectivement, il y a des formations incontournables, j'ai envie de dire, comme éducateurs spécialisés et infirmiers, comme je parlais en amont, qui sont souvent remplies, on va dire, généralement, puisque c'est souvent des enfants de parents qui ont un attrait pour le social ou le médico-social ou le sanitaire et qui viennent se former. Mais sur d'autres métiers, je pense notamment à éducateurs de jeunes enfants ou même auxiliaires de puriculture ou ce genre de métier, d'ailleurs on n'en avait pas parlé, le remplissage entre guillemets est compliqué. Et il s'explique justement par un manque d'informations aussi au sein des lycées ou en sortie de lycée où nous on peut intervenir maintenant désormais pour montrer en fait que il existe ce genre de formation. Donc parfois oui, c'est un peu compliqué effectivement le remplissage, c'est compliqué de l'expliquer comme ça, mais avant il n'y avait pas cette problématique là, maintenant elle existe.
Donc il faut aller chercher les clients quoi. Ou des futurs clients.
C'est ça.
C'est-à-dire dans les écoles qui vont devenir des futurs professionnels.
Exactement. Alors moi, j'ai envie de dire, il faut faire de l'aller vers. Je pense que c'est le bon mot. Et puis, j'aime pas trop dire séduire, mais plutôt sensibiliser. Sensibiliser, en fait, à notre secteur, à notre culture, à la culture de l'accompagnement de personnes vulnérables, ce qui fait que ça va peut-être pas susciter des vocations, mais en tout cas intéresser et permettre aux jeunes de s'orienter d'une manière très efficiente, puisque plus on intervient tôt, plus on leur permet d'avoir une vision du secteur et une connaissance du public. Et donc, du coup, ça va leur permettre de s'orienter au mieux après, par la suite, et peut-être choisir un métier qu'ils n'avaient pas pensé. Sachant que, petite anecdote pour intervenir souvent dans les lycées, le premier métier qu'on sort de notre secteur, c'est psychologue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils renvoient à aider l'autre avec la parole. C'est souvent ce que les jeunes nous disent, mais ils ne savent pas, absolument pas de quoi il en découle. Et quand on rentre dans le vif du sujet, finalement, ce n'est pas forcément ça qu'ils veulent faire, et on parle des autres métiers.
Voilà. Pour psychologue, c'est quand même un master, c'est du bac plus 5.
Absolument.
Quoi. Donc, on va vers des carrières longues, universitaires, alors qu'il y a aussi des CAP petite enfance, qu'il y a des bac plus 2, des bac plus 3, etc. Alors, vous dites que vous avez monté, au cours de votre mission, en tant que chargé de mission, un certain nombre d'outils. Donc, aujourd'hui, vous êtes présent dans des salons de recrutement. Et donc, vous faites combien de salons par an dans la région? Si on essaie de faire un bilan de toutes les actions, allez, les salons. Je crois que vous étiez récemment à Tarbes.
Absolument.
Ensuite, vous allez partir à Toulouse. Ensuite, vous allez partir à Rodez. Alors, dites-nous, quelles sont les villes que vous fréquentez? Pourrait-on dire les préfectures de tous les départements?
Alors oui, effectivement, si on prend que les salons, parce qu'on mène d'autres événements, on a à peu près à 20 à 30 salons par an. Ce qui est vraiment énorme dans l'Occitanie.
Et ça, ça ne se faisait pas avant, c'est ça?
Absolument. En fait, on a découvert
ça, c'est nouveau,
que c'est nouveau, que notre secteur n'était pas représenté. Quand vous prenez Studierama, et on peut prendre un autre concurrent qui est l'étudiant, ou même les salons Travail Avenir Formation de la région Occitanie, où notre secteur était très peu présent. Alors, il y avait une histoire aussi de financement, parce que pour y participer, il faut financer.
C'est des opérations qui coûtent cher pour les associations.
Voilà, absolument. Donc, ça s'entend. Donc, nous, on a eu cette idée, en fait, de créer un partenariat avec ces enseignes et d'être présent sur ces salons et ces événements et de faire participer donc, les employeurs, mais évidemment aussi les organismes de formation pour l'orientation de nos jeunes. Et ça a été très, très bien accueilli par les jeunes et puis par les organisateurs, puisqu'on a réussi à créer un pôle médico-social et social. Donc, comme vous l'avez dit, on intervient à Tarbes, à Rodez, on est aussi à Nîmes, à Narbonne, à Toulouse, bien évidemment, et Montpellier. Et après, sur des salons à moindre échelle aussi, comme Cahors, Perpignan également. Enfin, voilà, on essaye d'avoir au moins tous les grands chefs-lieux de l'Occitanie, où on voit des fois, pareil parfois pour l'anecdote, quand on est à Montpellier, des gens de Bordeaux qui se déplacent tellement ils veulent des informations sur notre secteur ou leur orientation.
Ouais. Pour le moment, il n'y a que la région Occitanie qui est à la pointe sur, avec ce projet sans action. Les autres régions, elles se sont dotées d'un outil comme le nôtre ou pas ?
Alors, pour l'instant...
C'est juste pour un peu de vanité hein, pour l'Occitanie, peut-être.
Pour l'instant, c'est vrai qu'on a un peu la seule région pilote de ce genre
D'accord.
de projet qui fonctionne bien.
Occitanie est à la pointe.
Occitanie, on peut dire, est à la pointe, effectivement. Après, il y a des projets en département qui émergent, mais pas de la même manière. Mais en tout cas, on se sert de cette base-là qu'on a créée ici pour éventuellement... Et ce serait hyper intéressant, moi, je pense, de le développer au niveau métropolitain.
Faites les salons, vous êtes également présent dans les lycées, les collèges. Vous allez diffuser la bonne parole du social et médico-social ?
Alors, diffuser la bonne parole, je ne sais pas. Mais oui, on est présent dans la majeure partie maintenant des collèges et des lycées, puisqu'on est identifié. On est passé aussi par la région Occitanie qui nous a bien accompagnés sur
Ça
le sujet.
Ça veut dire quoi ? Vous faites des conférences, vous demandez aux proviseurs, au principal, de vous prêter une salle, de vous accueillir. Et à partir de ce moment-là, vous faites une conférence, vous rentrez en contact avec les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, c'est ce
oui,
que vous faites ?
C'est presque ça. Ça va même plus loin dans le sens où on va tâter un peu le terrain en disant de quoi vous avez besoin. Et nous, on adapte nos outils puisqu'on a créé des outils aussi de découverte métier. Puisque les jeunes, maintenant, bah, vous le savez sûrement, il faut les capter d'une autre manière. Voilà, le descendant, c'est un peu compliqué. Donc, on a créé des escape games, des jeux de plateau. Effectivement, on fait des conférences, mais des conférences dites participatives où on va solliciter le public et donner de l'intérêt. Et on utilise souvent la sensibilisation au secteur pour les intéresser. C'est des choses qui marchent très, très bien. Et on est très sollicité. Et pour vous dire que parfois, on est obligé de refuser... des certains lycées.
Ça, c'est le succès, ça. C'est ce personnel, Thomas, voilà. si vous refusez, c'est le succès.
Non, c'est-à-dire qu'on essaye maintenant, et c'est important de permettre aussi aux structures médico-sociales de faire ce travail-là, puisque rien ne vaut aussi la parole d'un professionnel. On fait participer des professionnels de terrain, comme les métiers qu'on a cités, pour qu'ils viennent témoigner auprès des jeunes de leur métier. En fait, c'est cette passion-là qui va permettre aux jeunes de s'orienter, de comprendre vraiment la fibre. Et le mieux qu'on ait fait, je pense, et j'en suis assez fier quand même, c'est de faire participer des jeunes, donc adolescents accompagnés par la protection de l'enfance, mais aussi des adultes en situation de handicap qui sont venus témoigner de leur parcours et de l'accompagnement des professionnels du médico-social. Et ça, ça a vraiment touché.
Ça marque. Ouais. Marque. Un jeune, quand il voit une personne en situation de handicap qui vient témoigner, dit « moi j'ai besoin, voilà mon besoin, il y a une personne qui est à côté de moi, qui m'accompagne, mon handicap », dans la tête d'un futur professionnel, d'un jeune lycéen, ça peut déclencher l'envie peut-être de faire ce métier.
Absolument.
Vous l'avez remarqué. Les associations jouent le jeu. Combien d'associations sont aujourd'hui, je dis, adhérentes ou participent avec vous à ce Sens Action ?
Alors, si on prend, parce que c'est vrai que c'est toutes les associations sous compétence ARS, y a Nexemfap effectivement, mais d'autres, on est à peu près à une soixantaine, 70 associations, sachant qu'il y en a beaucoup plus en Occitanie, qui sont parties prenantes du projet, sachant que nous avons un comité de pilotage aussi, où sont présentes des directions générales d'associations. Donc, les associations participent activement. Après, je pense qu'on peut en embarquer d'autres dans notre chemin. Mais en tout cas, oui, elles sont présentes. 60, c'est quand même déjà beaucoup. Et puis, on peut compter sur elles. Voilà, quand on a besoin sur un événement ou de témoignages de professionnels, de journées portes ouvertes et autres, sur les événements qu'on met en place, les structures répondent présentes. Après, c'est quand même une organisation interne nouvelle. Puisque l'attractivité, il faut la travailler aussi en interne. C'est tout un plan de développement, c'est un peu nouveau, faire de l'aller vers la structuration aussi de l'intégration des nouveaux salariés, la fidélisation, la marque employeur, voilà, toutes ces nouvelles choses. Donc ça nécessite quand même une adaptation. Après, il y avait déjà des structures qui mettaient en place des choses, et nous, on est venu que renforcer ou valoriser en fait, ces bonnes pratiques.
Depuis que vous menez cette action, ça va faire quoi, 18 mois ?
19 mois,
19 mois, voilà. Une action quand même importante. Est-ce que vous pouvez nous esquisser un début de bilan des actions les plus importantes dont il y a pour vous, à titre personnel y compris, une satisfaction ou une fierté particulière.
D'une action qu'on a pu mettre en place plusieurs. Voilà. Oui, alors moi, il y en a une qui me vient tout de suite. On a travaillé avec un établissement dans l'Aveyron, un foyer d'accueil médicalisé, donc accueil de personnes en situation de handicap adulte, qui souffrait de manque de personnel et dans un tout petit village à côté d'Espalion. Et on a eu cette idée de créer une journée portes ouvertes, mais pas forcément que pour les lycéens ou collégiens ou même les étudiants, mais aussi pour tout public. Et on l'avait organisé d'une manière ludique avec plusieurs ateliers, visites de l'établissement par les résidents, témoignages de professionnels, puis une partie recrutement. Et on a réussi à faire venir dans ce petit village 45 personnes en tout, donc c'est vraiment énorme, dont la mamie. La voisine mamie qui était là, qui vivait là depuis 80 ans et qui n'avait jamais vu l'établissement, qui n'était jamais rentrée. Donc moi, ça m'a marqué ça. Et donc du coup, derrière, ce qui ça a créé en tout cas, c'est 4 embauches en CDI direct.
4 embauches en CDI direct.
Direct.
Une porte ouverte, journée porte ouverte, ça génère donc des dépôts de CV et une embauche.
Voilà.
C'est formidable, quoi. Parfaitement réussi.
Ça m'a marqué, effectivement. Oui. C'était vraiment une franche réussite. Et puis derrière, il y a eu aussi des stages pour des lycéens qui étaient en bac pro. Et puis, ça a permis aussi à un organisme de formation qui ne connaissait pas la structure d'envoyer des professionnels, infirmières notamment, en formation dans cet établissement. Et puis, vous m'en avez demandé plusieurs, je vous en donne un deuxième aussi, qui m'a marqué, qui me marque souvent d'ailleurs, c'est quand on intervient dans des salons ou dans des choses comme ça, des retours en fait de jeunes qui soit m'écrivent, soit m'appellent, soit je les re-rencontre physiquement, qui me disent bah, « en fait, c'est grâce à votre témoignage ou le témoignage d'une personne qui travaille dans ce secteur, ça m'a donné envie de me former. Et maintenant, j'ai fait un stage d'observation et maintenant, je suis en formation, par exemple, d'éducatrice spécialisée. » Là, j'y suis allé récemment dans un organisme de formation dans l'Aude. Et ça, c'est une vraie fierté puisqu'elle m'a dit « je ne connaissais pas du tout le secteur. Alors oui, j'étais sportive, j'avais un peu un attrait. » Mais de par ce que vous m'avez apporté, bah, ça m'a donné envie. Et là, ça va plus loin que les salaires, etc. C'était vraiment je suis passionné. Et c'est
justement,
ça.
On va parler des salaires. Mais avant de parler des salaires, quand même, sur les 18 mois, vous mettez en place des outils. Les outils se développent, les salons, les visites, les conférences, des jeux, etc. Est-ce que vous avez tracé, pourrait-on dire, selon la terminologie, le nombre de CV que vous avez généré, le nombre de rendez-vous? Est-ce que vous avez, dans les outils que vous avez mis en place, est-ce que vous avez une vision de tout ce que cela a produit de nouveau dans la rencontre? Est-ce qu'il y a eu combien d'embauches dans les 18 mois qui se sont passés? Est-ce que vous avez cette vision, Monsieur Thomas Personnini?
Alors c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est vrai qu'il est un peu tôt aussi pour avoir cette visibilité-là, puisqu'en fait toutes les personnes qu'on va toucher, parfois c'est une formation à long terme, ou alors il y a rentrée en formation, il y a embauche. Mais quand même, je vais quand même vous répondre, puisqu'on a fait une étude auprès des structures pour connaître le taux d'embauche et le taux de stage ou d'attractivité.
Ou d'apprentissage également.
Ou d'apprentissage, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la montée de l'apprentissage.
A été une opération qui a été très favorable dans le secteur.
Absolument.
Au passage, le coup de rabot que prévoit le gouvernement, peut-être sur l'apprentissage, n'est pas de bon augure pour notre secteur, quoi. Faut aussi le dénoncer, quoi.
C'est vrai que pas du tout, puisque les jeunes...
Il y avait là une bonne idée, et on casse cette bonne idée.
Les jeunes, de plus en plus, veulent se former en apprentissage ou faire de l'alternance. Et c'est vrai que là, en venant réduire le financement pour les structures, c'est un peu compliqué puisqu'il y a de plus en plus de demandes. Les organismes de formation ouvrent des CFA pour former les travailleurs sociaux.
Les centres de formation apprentis.
Oui, pour les travailleurs sociaux. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de demandes de jeunes qui veulent faire ce genre d'études. Et donc, effectivement, on a eu des bons retours sur les chiffres, notamment de l'embauche et les structures. Pareil, comment s'éduquent à chiffrer aussi leurs interventions, parce qu'avant, c'était un peu... on fait une action, mais on ne l'évalue pas forcément. Donc maintenant, on l'évalue. Et puis, pour terminer aussi sur ça, on a fait une étude avec Tous Business School sur une étude qualitative.
L'école de commerce et de management de la région.
De la région, pardon.
Oui, même une école nationale, internationale,
absolument.
Bien évidemment.
Et on a fait une étude effectivement qualitative, donc là auprès des employeurs où ça a montré le bien fondé de la mission et même que Sans Action est devenue une marque un peu de l'attractivité. pour faire un gros résumé, mais c'est disponible, on peut le lire sur les réseaux, nous, on l'a diffusé sur notre site internet.
C'est une enquête qui est disponible là.
Oui, sur notre site internet.
Votre site, oui, vous pouvez nous rappeler votre site internet.
Oui, bien sûr, c'est www.enoccitanie.fr.
Voilà, donc voilà. Les employeurs ou éventuellement les personnes qui sont en recherche d'emploi dans ce secteur-là peuvent se connecter et puis vous trouverez des informations, les enquêtes, vos manifestations.
Absolument, et aussi des livrables à destination des employeurs, puisqu'on a créé actuellement, on a 8 livrables à destination des employeurs sur comment organiser des journées portes ouvertes, par exemple, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment accueillir un stagiaire mineur ou majeur en fonction de son parcours. Voilà, plusieurs livrables à destination utiles des employeurs pour cela. Et puis, nous sommes en train aussi de refaire notre image, puisque, comme je vous ai dit, on se professionnalise, donc on a fait appel à une agence de communication où le site internet va être fait et se veut vraiment orienteur. Une partie pour le public qui cherche à se former ou travaille dans notre secteur, puis une partie pour les employeurs.
Vous avez été pionnier, monsieur Personini, tout seul. Et puis, le succès, il y a un deuxième chargé de mission avec vous, donc deux pour vous partager le territoire, pourrait-on dire, ou pour démultiplier les actions.
C'est ça, en fait, effectivement, vu que les 18 premiers mois se sont très bien déroulés, l'Agence régionale de santé a débloqué un nouveau CNR pour une nouvelle chargée
de mission. Donc, crédit non reconductible pour cette opération.
Crédit non reconductible pour une nouvelle chargée de mission qui, elle aussi, s'occupe davantage sur le secteur des personnes âgées. Hein. Voilà. Et après, sur le territoire, on ne se le sépare pas forcément, même s'il y a cette logique-là. Mais oui, on est complémentaires. Et donc, du coup, c'est très intéressant puisqu'on peut couvrir davantage l'Occitanie, puisque seul, c'est vrai que parfois, on a un peu ses limites.
Avant d'aller plus loin, je vous propose une courte page musicale avec des jeunes musiciens qui font une musique toujours agréable. Allez, une petite promenade et on se retrouve tout à l'heure. We'll be right back. Esprit Occitanie Sentinelle d'Humanité, toujours avec Thomas Personini, chargé de mission, sans action, métier engagé pour l'humain. Belle action pour les fédérations de la FEAP, de NEXEM. Tout cela financé par l'Agence régionale de santé qui a mis le coup de pouce nécessaire pour rendre les métiers de l'humain plus accessibles, pourrait-on dire. Et vous avez créé de nombreux outils présents sur le territoire d'Occitanie, qui est très très grand, dont de nombreuses associations. Alors vous m'avez dit, vous avez lancé donc une enquête dite qualitative. Alors, on peut avoir quelques conclusions de cette enquête qualitative qu'on peut retrouver sur votre site internet. Alors allons-y.
Absolument. Alors, les conclusions qu'on a, c'est effectivement que c'est venu en fait mettre l'action de l'attractivité avec les employeurs sous la même bannière, sans action, créer une dynamique et surtout un guichet unique en fait de l'attractivité en Occitanie, c'est-à-dire que demain, je veux mettre en place des actions, je me réfère à Sens Action. Ça a pu permettre aussi le maillage territorial, et ça, plusieurs partenaires ont témoigné dans l'étude pour dire que vraiment le maillage a été renforcé entre, sans les citer, voilà, France Travail, Mission Locale, la région, plein de partenaires de l'emploi et de la formation. Ça, ce sont les vraies retombées. Et puis, de venir professionnaliser des bonnes pratiques et de les diffuser au sein des structures, ou même venir redévelopper des pratiques qui étaient déjà présentes. Donc une vraie dynamique d'attractivité reconnue avec des outils, et surtout ils ont insisté sur les outils qui étaient vraiment adaptés au public.
Les outils que vous mettez en œuvre, ce sont des outils qui sont transférables pour n'importe quelle région, Nouvelle-Aquitaine, PACA, région centre, quelqu'un, c'est-à-dire vous pouvez transmettre ces outils et puis un chargé de mission peut les développer sans aucune difficulté, quoi.
Absolument. Ça se veut effectivement utile et facile d'appropriation. Après, il faut quand même connaître le secteur, puisqu'on va parler de métier ou de formation ou de public accompagné et même de culture, hein, sociale, médico-sociale. Donc voilà quand même les prérequis. Mais même les associations, les organismes gestionnaires peuvent se les réattribuer en utilisant aussi, en mettant eux leurs pattes, hein, clairement, sur ces outils-là.
Vous m'avez dit qu'il y avait un comité de pilotage, donc j'imagine qu'il se réunit une fois par trimestre, une fois par semestre. Qui participe ?
Alors, dans ce comité de pilotage, on a bien évidemment les représentants des fédérations employeurs. D'ailleurs, c'est ajouté désormais la Fédération hospitalière de France, suite à l'arrivée également de la nouvelle chargée de mission. Et puis, des directions générales ou des directeurs de ressources humaines ou directrices de structures médico-sociales sur le volontariat, puisque le projet a été présenté en Occitanie par les fédérations employeurs et sur volontariat. Actuellement, dans le comité de pilotage, nous avons 35 représentants de structures médico-sociales. Et l'ARS.
Et l'ARS. Ouais. Et l'ARS, bien sûr, toujours, qui finance, et c'est parti pour combien de temps ce financement ?
Alors là, on a été renouvelé, effectivement,
pour 18 mois
pour
de plus.
18 mois de 18 plus, mois. Donc nous sommes très heureux jusqu'en janvier 2026.
Très heureux, et remercions, bien entendu, l'ARS pour ce coup de pouce nécessaire pour les métiers. Voyons le pire d'une situation. Dans 18 mois, l'ARS ne finance plus. Que se passe-t-il pour ce projet qui a du sens, sans action, qui a vraiment du sens ? Ça veut dire quoi ? C'est les fédérations qui doivent prendre le relais ? Ce sont les associations qui doivent se cotiser ? Où en est-on ? Passons le pire. Peut-être toujours intéressant d'anticiper les choses qui se passent bien, mais parfois, malheureusement, les choses qui se passent mal. Quelle est votre analyse, monsieur Thomas Personini ?
Alors, ma propre analyse fait que je pense qu'il serait intéressant de prolonger ce projet, effectivement, puisqu'il a du sens, comme vous le dites. Et puis, en voyant aussi les acteurs de terrain, je pense qu'ils s'en saisissent. Il y a plusieurs pistes, hein, qui sont à l'étude. Effectivement, les fédérations employeurs sont en train de réfléchir pour la poursuite, effectivement, du projet. Alors, sous peut-être un autre mode, mais en tout cas, ne pas perdre ce qui a été créé et pouvoir le diffuser. Et éventuellement, oui, solliciter les structures employeurs pour financer à minima, enfin voilà, avoir un accompagnement en tout cas sur l'attractivité.
Vous, quand vous les fréquentez de près, vous pourrez dire qu'ils sont assez mûrs pour vous dire oui, on va y aller, on a besoin de cette mission, qu'il faut se fédérer pour travailler ensemble. il ne faut pas se piquer les professionnels. Parce que j'ai l'impression parfois qu'on est dans des situations où on vient chercher sur d'autres terres et on se pique le personnel alors qu'il faudrait générer des CV du personnel. Non, peut-être que vous ne pouvez pas le dire, mais moi oui, j'ai une totale liberté de temps.
Il y a quand même une unité à dire que voilà, l'attractivité, il faut la travailler ensemble. Voilà. Surtout qu'en plus, il y a des vrais résultats dans les territoires qui l'ont fait. Quand je parlais de maillage territorial, effectivement, les structures qui ont travaillé ensemble ont même parfois mutualisé effectivement des postes entre structures qui ne sont pas de la même organisation. Mais
là, il faut une proximité territoriale pour
absolument,
faire ça.
Absolument.
On est bien d'accord.
Donc, pour répondre, il y a des structures qui sont prêtes à le faire. Et puis, il y a des structures qui ont besoin encore de maturer le projet. Voilà, on va dire ça, on va le dire comme ça. Mmh. Et je pense que c'est tout le bien fondé aussi de la mission de venir montrer en quoi c'est nécessaire de non pas se concurrencer, mais travailler ensemble vers l'attractivité. Puisque moi, ce que je mets en avant souvent, c'est que chaque établissement a quelque chose de différent à montrer, notamment dans l'accompagnement des personnes accompagnées.
Alors, on n'a pas parlé de salaire, mais il faut quand même parler un peu de salaire, quoi. Souvent, ou en tout cas, les études s'est documentées, et notamment par les syndicalistes, hein, le syndicat d'employés, en disant les jeunes ne vont pas vers ces métiers. D'abord, ce sont des métiers difficiles et qui sont assez durs. Travailler en EHPAD, c'est pas simple. Et puis, malheureusement, il n'y a pas de reconnaissance salariale. Malgré le Ségur de la santé, malgré les augmentations, les 183 euros, etc. Vous qui êtes sur le terrain, quel est votre sentiment sur cette affaire ?
Alors là, je vais parler moi plutôt peut-être personnellement,
oui, personnellement
parce que
oui.
j'ai été effectivement à cette place-là en tant qu'éducateur spécialisé. Donc je suis d'accord que nos salaires ne sont pas à la juste valeur. Puisque voilà, je pense que le travail qu'on fournit auprès de l'humain voilà, mérite mieux, puisqu'il y a des belles choses qui sont faites, et puis nous sommes compétents, hein, on a vraiment des vraies compétences, donc il y a ce besoin-là. Après, effectivement, on dit que c'est dur de travailler en structure, mais les gens le font avec passion, et surtout, on est toujours sur les discours de... Voilà, on met toujours en avant le discours négatif, mais il y a des personnes qui ont des discours très positifs, donc c'est peut-être ceux-là aussi qu'il va falloir écouter. Après, oui, le Ségur, j'ai envie de dire, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Hein. Ça a permis, effectivement, les revalorisations, et là, dernièrement, en plus, hein, des personnels administratifs. Et c'est très bien, et je le félicite. Néanmoins, je pense que, je pense que vous savez qu'il y a l'étude d'une convention collective unique qui mériterait d'être poussée dans le sens où on...
Qui mériterait de voir le jour, peut-être ?
Je sais que ça fait des années, alors moi j'ai moins d'expérience, mais ça fait des années que c'est travaillé. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur le salaire, moi je pense que ça passe pas que par là, mais on en a besoin, d'autant plus que l'époque a changé. Hein, voilà, on ne travaille plus comme dans les années 60, les 70. Les gens ont aussi envie d'avoir d'autres choses, et puis le coût de la vie a augmenté également, et donc du coup c'est pour ça aussi qu'on voit des gens partir de notre secteur alors qu'ils l'aiment parce qu'ils ne peuvent plus en vivre, et donc du coup c'est ça qui est terrible, et moi je pense vraiment qu'il faut à la fois travailler sur les salaires bien évidemment, mais aussi travailler sur l'image du métier, parce que l'image des métiers, elle a été ternie par plusieurs affaires récentes ou de ces dernières années, alors qu'il y a des métiers vraiment magnifiques auxquels on ne met pas en lumière.
On a dit également que la période du Covid hein, a été un déclencheur dans ces métiers pour un désengagement. Ce sont des gens qu'on a applaudis. Ils étaient en première ligne et puis on a très très vite oublié qu'on les avait applaudis et qui continuent à faire ce métier. Le Covid est venu également montrer qu'il y avait un équilibre, peut-être, vie professionnelle, vie personnelle, mais pas uniquement dans notre secteur.
C'est ça.
Les spécialistes de ressources humaines le mentionnent très clairement.
Absolument, je pense que c'est juste venu accélérer un positionnement d'équilibre vie personnelle et professionnelle, mais pas que dans notre secteur, dans tous les secteurs, puisque quand on parle avec d'autres collaborateurs, tous les secteurs souffrent de ça aussi. C'est juste que le Covid a amené un vide qui a permis une remise en question, une prise de recul de chacun sur son propre métier, et notamment dans notre secteur, de se dire, c'est vrai que je mets beaucoup d'engagement personnel depuis très longtemps. Là, j'ai le temps de prendre du recul et je me dis que ben, finalement, pourquoi pas changer ? Voilà, donc ça a juste accéléré, je pense, l'inévitable de notre secteur. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette période, parce qu'on n'en parle pas de ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont aimé être au front, entre guillemets, aider les gens, et ils ont vraiment trouvé du sens à ce moment-là. Et ça a même permis aussi à d'autres gens, maintenant, de se reconvertir, parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de gens qui se reconvertissent dans notre secteur en disant, prise de conscience, ben, pourquoi j'ai fait ce travail toute ma vie et pourquoi je n'irai pas aider les gens.
Alors, récemment, j'ai vu dans un centre de formation un banquier qui avait fait de la finance, qui fait une formation d'infirmier. J'ai vu quelqu'un qui était enseignant qui fait une formation d'assistant social. Donc, il y a des reconversions formidables dans notre secteur. C'est assez courageux, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je pense que c'est un vrai courage, effectivement, surtout qu'en plus...
Parce que repartir pour 2 ans ou 3 ans de formation, c'est pas simple.
Surtout qu'en plus, quand ils arrivent face à tout cela, ils savent qu'il faut se former, parce qu'il faut se former, accompagner l'humain. Voilà, ça, c'est mon petit fer de lance, mais il faut se former. Et donc, du coup, oui, c'est, il faut beaucoup d'envie. Mais justement, ça montre qu'il y a des personnes qui ont envie de faire cela et de changer du tout au tout et de repartir en formation et d'apprendre parce qu'ils se sont dit, finalement, j'ai loupé quelque chose. Accompagner l'humain, il y a des choses à explorer. Donc, du coup, c'est ça qu'ils viennent chercher. Et moi, ces personnes, vraiment, je les encourage et j'encourage notre secteur à les accueillir puisqu'on n'a pas cette culture-là non plus d'accueillir des personnes en reconversion alors que bah, ça peut très bien être des très bons professionnels après sur le terrain.
Dans toutes vos publications, vous parlez des métiers du soin et de l'accompagnement, assistant service social, auxiliaire, éducateur spécialisé, infirmier, etc. Mais vous ne parlez pas de cadre de direction, type directeur, directrice, cadre intermédiaire, alors qu'il me semble qu'en discutant avec les directions générales ou directions d'établissement, il y a également de la pénurie. Et là, vous participez aussi au recrutement des futurs directeurs et cadres dans les structures sociales et médico-sociales ?
Alors, la volonté...
Master 1, Master 2, CAFDES ou CAFERUIS.
La volonté au départ du projet, c'était vraiment de s'associer sur ces métiers-là, hein, les métiers les plus en tension, on va dire. Mais effectivement, vous l'avez dit, il y a un besoin aussi au niveau du management. Et des fonctions de cadre. Et donc, du coup, on est en train de mener des petites actions sur les territoires avec des partenaires comme l'APEC, par exemple, sur la découverte des métiers d'encadrement pour les filières master, pour les filières Café Ruiz ou autres, pour qu'ils puissent venir.
Alors, je vous dis cela parce que récemment, une association cherche un directeur dans un établissement depuis 6 mois, quoi. Enfin, je pensais que les métiers de direction faisaient rêver, alors peut-être que c'est une vision de l'esprit. Non, ça ne se précipite pas, ça ne génère pas assez de CV. Donc là, pareil, donc vous allez monter quelques actions.
On va tenter, oui, de monter quelques actions. Et en fait, on s'est rendu compte que la problématique est la même. C'est souvent la problématique d'attractivité, dans le sens où la vision du poste, la connaissance du secteur où on va venir travailler aussi. C'est un secteur rural, ben, il faut connaître l'environnement, etc. Et surtout aussi, ben, comme vous l'avez dit, il y a de moins en moins de monde qui se forme aux fonctions de direction, soit par manque de connaissances. C'est souvent ça, hein, ne connaissent pas forcément les diplômes, ou alors il y a des professionnels qui vont passer de métier de terrain à fonction d'encadrement et ils n'osent pas sauter le pas alors qu'ils en sont capables. Voilà. Donc oui, il faut monter des actions aussi et on entend quelques-unes, mais c'est vrai que ce n'est pas le cœur pour l'instant de l'action.
C'est pas encore, mais voilà. Est-ce que la mission pourrait s'élargir dans les mois qui viennent ? C'est fort possible ? Non, c'est pas quelque chose...
Sur les fonctions d'encadrement, oui, dans les structures, mais après, sur les métiers support, parce qu'on nous a déjà posé la question, comptabilité, services ressources, etc., RH, qui sont très, très importantes aussi dans les structures, là, on va moins intervenir, puisqu'on n'est que deux, et qu'on a déjà fort à faire avec ces métiers-là, mais on renseigne souvent aussi sur ce genre de structure.
Une question, quand on parle la France, notre République, on est dans un espace européen, est-ce que vous avez des informations, comment ça se passe dans les autres pays sur la pénurie, les difficultés, est-ce que vous avez des informations sur ces métiers-là, j'imagine, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, est-ce qu'on a les mêmes difficultés pour attirer vers les métiers de l'humain ou pas, parce que vous avez des études à votre disposition.
Les seules études qu'on a, que moi j'ai pu avoir, c'était au niveau du Canada.
Oui.
Parce que le Canada, ils ont quand même une manière d'accompagner qui est différente.
Oui, souvent on cite le Québec, parce que les Canadiens comme exemplaires en la matière.
Bon. Voilà. Après, je n'ai pas forcément de chiffres d'études sur l'Espagne, mais notamment l'Italie. Où l'Italie, en fait, la méthode d'accompagnement va être différente, où on va moins, en fait, sectoriser les handicaps, la psychiatrie et la protection de l'enfance, par exemple. Et on va faire, en fait, un peu plus de manière communautaire, sans forcément réduire une personne à un symptôme ou à un trouble, mais plus à une difficulté sociale. Et donc, du coup, ça fait que les métiers, éducateurs spécialisés, ça n'existe pas, on est plus travailleur social, un peu multicasquette. Et donc... Et puis, il y a cette culture aussi un peu historique de la religion, de l'accueil, etc., qui est différente de chez nous. Et donc, du coup, voilà. Bon, après, je n'ai pas forcément de chiffres, mais c'est ce que je peux apporter en tout cas.
Mais on a eu des formations. Ouais. Avant d'aller encore plus loin sur le métier de Sens Action, je vous propose d'écouter une diva. Une diva avec une belle voix, Luz Casal. Occitanie, sentinelle d'humanité, toujours avec mon invité Thomas Personini, chargé de mission, Sens Action, Sens et Action. C'est une jolie marque, hein, monsieur Personini. Qui a eu l'idée de Sens Action? C'est vous, l'ARS, la FEAP, Nexem ou tout le monde? C'est collectif.
C'est collectif. On a créé un petit projet sur le nom et l'identité. Et donc, du coup, tout le monde a amené un peu sa vision. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu tous les côtés. Chacun a amené sa vision.
Et du coup, il y avait le sens, on peut le décliner comme ça,
le sens de l'action. L'action, donner du sens à son action en temps, dans un métier. Donc, c'est vraiment ressorti. Et c'est pour ça qu'on a eu un slogan, métier engagé pour l'humain, parce que engagé aussi. Voilà, c'est tous ces mots-clés qu'on avait ressortis. Et sens action, ça fait aussi sensation, hein, la sensation de l'émotion aussi qu'on ressent.
On ne peut pas faire ce métier par hasard. C'est ça, non, qu'on pourrait dire? Non. C'est Il faut un peu de vocation quand même, même si je sais qu'ici et là, on peut critiquer la vocation en disant c'est avant tout professionnel, mais quand même, c'est pas neutre de faire un métier de l'humain.
Pour moi, je suis assez d'accord avec vous, hein. Pour moi, je dirais même qu'il faut des prédispositions et vocation, voilà, c'est un mot fort, mais il faut des prédispositions, c'est-à-dire que si on n'est pas prêt à accueillir une certaine souffrance aussi, hein, ou d'accompagnement, ou même partager une part de soi en fait en accompagnant
la les pratique
personnes.
De l'altérité. Si on n'est pas prêt à la pratique de l'altérité, il vaut mieux s'abstenir.
Je suis de cet avis. Ouais. Après, effectivement, il y a d'autres avis qui disent que voilà, on peut mettre de la distance et que ça coule, voilà. Mais moi, je pense qu'on partage quand même quelque chose avec le public, et donc du coup, qu'il faut une empathie qui se travaille professionnellement, et c'est pour ça que j'insiste sur la formation, puisque ça nous apprend aussi à mettre à proximité nos affects.
Alors, nous allons conclure notre entretien de Sens Action. Personnellement, pourquoi vous avez accepté ce métier? Alors, je sais bien, comme chargé de mission, vous cherchez un poste, on vous l'a proposé, vous avez été recruté, il y a eu la sélection, mais quand même, qu'est-ce qui vous a... c'est ce qui a déclenché l'envie de venir faire cette mission?
Qui a déclenché
le déclic, voilà. Le je ne sais quoi, le presque rien, comme disait Jankélévitch, le grand philosophe. Alors c'est quoi ce presque rien?
J'étais en poste éducateur spécialisé et j'avais envie, en fait, je me suis dit, j'ai envie d'impacter et de montrer toute la sublimer vraiment nos métiers, sublimer l'accompagnement qu'on
là,
peut faire
avec le public.
Là, vous
êtes assez cancien, hein, là, sublimer l'action.
Oui, c'est vrai, parce que la mettre en valeur, et donc du coup, c'est ça. En fait, c'est
et c'est ce qu'a fait, allez, je prends la mission.
Voilà, et je me suis dit un peu de culot aussi, parce que voilà, je n'ai pas non plus une expérience de 40 ans de carrière, mais je me suis dit, va voir ce qu'il en est, et prends de la hauteur aussi, et va rencontrer les acteurs. Parce que moi je connaissais pas non plus les fonctionnements des directions ou autres et même les fonctionnements territoriaux, et va prendre de la compétence pour amener encore plus et pour être encore plus passionné sur le métier. Donc bien sûr j'ai quitté le public accompagné, mais je suis toujours au service du public accompagné quand
oui,
même.
Parce que aujourd'hui vous êtes dans un métier chargé de mission, vous êtes dans le relationnel, l'intersubjectivité, vous travaillez avec, vous faites un métier, de coordination avant tout. Revenir au travail de base, éducateur, etc., ça va être difficile, non?
Oui.
Vous dites oui.
Oui, oui, je pense que ce serait difficile.
Est-ce que vous seriez tenté par les métiers de direction d'établissement?
Pourquoi pas, la direction d'établissement m'intéresse, ou les postes un peu transverses, comme sur la qualité aussi, ça peut être...
Ou éventuellement direction de ressources humaines, non?
C'est une piste, et puis j'apprécie aussi beaucoup la formation, puisque j'interviens dans des organismes de formation sur les diplômes d'État d'éducateur spécialisé, donc la recherche également dans notre secteur, enfin voilà, il y a plusieurs pistes que j'aimerais explorer.
Alors la recherche, vous avez envie de faire quoi dans la recherche? Si c'est pas trop indiscret comme question, c'est trop prématuré.
Non, j'avais cette utopie de pouvoir écrire en fait sur le lien entre la théorie vraiment des métiers, la pratique et vraiment ce yin-yang et ce prisme qu'on peut lier et rattacher. Et puis après, totalement autre chose qui est sur l'autisme, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des personnes avec des troubles du spectre autistique. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne.
Eh bien, ça va être une bonne route, peut-être pour un jour préparer une thèse en sciences de l'éducation ou faire de l'anthropologie dans les métiers du soin et de l'accompagnement, non, Monsieur Personnini?
Ce serait parfait, ce serait idéal. Voilà, ce serait. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas. Merci d'avoir accepté notre invitation à Esprit Occitanie, sentinelle d'humanité. Chers auditeurs, nous démarrons la nouvelle année 2024-2025 avec toujours des invités des personnes du secteur social, médico-social, du sanitaire, des psychologues, des psychiatres, des chefs de service, ceux qui publient, les intellectuels du secteur et ceux qui sont sur le terrain à l'action comme vous, cher Thomas Personnini. Merci beaucoup et bonne route et bonne sensation.
Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, c'était un réel plaisir. Merci.
À très bientôt.
À bientôt.